Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à toutes et à tous. Dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur la situation en Libye, un pays au bord de la guerre civile. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, le pays est en pleine anarchie. Les violents affrontements entre milices rivales se poursuivent alors que les résultats définitifs des élections législatives annoncées ce lundi font ressortir une nette avance de la mouvance dite civile devant les islamistes. La situation dans les villes de Benghazi et de Tripoli ne cesse de se dégrader. À Tripoli, depuis le 13 juillet, début de la bataille que se livrent les milices pour le contrôle de l'aéroport, une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort. Alors la Libye est-elle condamnée à sombrer dans le chaos? Comment rompre avec le cycle de violence dans le pays? Pour en débattre, vous nous rejoignez 33 9 693 6 693-70, 09-693-693-70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, et comme chaque jour, vos questions à la rédaction. Issoufi est à Bamako, au Mali. Bonjour Issoufi.
Bonjour Jeffrey, comment allez-vous?
Très bien, merci. Alors, vous avez des questions concernant l'opération Barkhane, hein, le nouveau dispositif français de lutte contre le terrorisme. On vous écoute.
Évidemment, moi j'ai appris le 18 juillet que la France passera de l'opération Serval à l'opération Barkhane. Je voudrais savoir pourquoi ce changement, pourquoi la transformation de l'opération Serval à l'opération Barkhane et quels sont les principaux objectifs de l'opération Barkhane.
C'est Olivier Four qui est à mes côtés, un spécialiste des questions de défense à la rédaction, qui va vous répondre. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, hein, le président français François Hollande, Olivier, était en Afrique pour justement le lancement officiel de Barkhane, le nouveau dispositif français de lutte contre le terrorisme. Barkhane qui est censé, comme vient de nous le dire Issoufi, remplacer l'opération Serval mise en place au Mali. Pourquoi demande Issoufi donc?
Il y a plusieurs aspects à cette réponse. Le premier aspect, c'est une réponse tactique. Cela fait bien longtemps en fait qu'on sait que les groupes djihadistes sont mobiles, ils ne connaissent pas de frontières. Donc une fois que l'essentiel du travail a été fait au Mali, et en réalité cela a été assez rapide, eh bien l'armée française a dû s'attaquer au démantèlement des réseaux djihadistes. Pendant la première partie de Serval, donc c'était début 2013, durant la guerre qui se déroulait proprement dit au nord du Mali, on estime que entre 400 et 600 djihadistes et assimilés comme tels ont été tués, mais les groupes n'ont pas pour autant disparu, et à partir de l'automne 2013, l'armée française et les forces spéciales ont dû combattre des groupes beaucoup plus réduits, de l'ordre d'une dizaine d'hommes. Ça veut dire aussi que leur présence est plus difficile à déceler. Ces groupes sont devenus très méfiants. Les chefs, par exemple, utilisent des éclaireurs à moto. Ils ne téléphonent plus. Ils sont devenus très discrets. Ils évitent d'utiliser des pick-up qui se voient mieux dans le désert. Et ces groupes armés agissent le plus souvent, donc en petits groupes, une dizaine d'hommes, et en miroir. C'est-à-dire qu'en fait, ils observent les mouvements de l'armée française et ils bougent en fonction. Et les militaires parlent souvent de ce qu'on appelle la théorie de la bille de mercure, c'est-à-dire qu'en fait, bien une fois que on a aplati cette bille de mercure, ben les groupes se sont un peu fragmentés dans tous les coins, tous les pays de la région, et donc maintenant il faut aller les chercher en Mauritanie, il faut aller les chercher peut-être au Niger, peut-être en Libye, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant il y a une approche qu'on appelle une approche régionale. Le deuxième aspect, c'est purement un aspect de réorganisation des forces françaises en Afrique. Vous savez que pendant de nombreuses années, on a parlé de forces prépositionnées, que ce soit au Gabon, que ce soit à Djibouti, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et ces forces travaillaient, si vous voulez, un petit peu en silo. C'est-à-dire qu'on avait des opérations aussi. Alors, une opération Épervier qui concernait le Tchad, Serval qui concernait le Mali, Sabre qui concernait la lutte contre le terrorisme depuis le Burkina Faso, Licorne pour la Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, l'état-major pouvait toujours piocher dans un réservoir de forces, par exemple au Gabon, pour envoyer des troupes quelque part, s'il y avait par exemple un problème avec une évacuation de ressortissants, comme ce fut le cas justement en Côte d'Ivoire fin 2004. Mais grosso modo, ces troupes travaillaient un petit peu dans le pays et travaillaient un petit peu de manière monolithique. Là maintenant, l'idée, c'est que toutes ces forces françaises prépositionnées ou positionnées, on va dire de l'Atlantique jusqu'à la Corne de l'Afrique, soient à même de communiquer, d'aller d'un théâtre à l'autre de manière
fluide, leurs actions.
De coordonner leurs actions. C'est aussi il y a aussi un aspect économique, hein, puisque par exemple pour Sangaris, pour l'opération KRCA, en l'occurrence là c'est pas de la lutte contre le terrorisme, ils sont allés chercher des troupes qui étaient à Djibouti. Ouais. Donc c'est aussi une manière de faire communiquer tout ça, d'utiliser le matériel de la manière la plus efficace possible et de faire communiquer ces différentes implantations, puisque je crois que ça fait à peu près 9 pays où la France est présente sur le continent.
Engagé, ouais. Alors, les principaux changements, la nouvelle carte.
Alors la nouvelle carte, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Mmh. Grosso modo, je le disais dans un papier précédemment, ça fonctionne sur le principe des vases communicants. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de monde, il va y avoir une déflation d'effectifs au Mali. En fait, ces effectifs vont partir au Tchad. C'est essentiellement l'état-major qui était à Bamako qui s'en va et qui va au Tchad. Donc là, ça va un peu s'équilibrer. Il y aura grosso modo trois grosses bases. Une à Gao, donc dans le nord du Mali. Bamako ferme, il restera juste l'escale. Mmh. Une base dédiée au renseignement à Niamey et la base de N'Djamena où sera le poste de commandement de l'armée française. Ouais. Pour toute la BSS, comme on dit maintenant, alors c'est la bande Sahel-Sahara, voilà, c'est le nouveau terme à la mode. Et les opérations Serval, Épervier seront noyées dans l'opération Barkhane. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'opérations entre guillemets dédiées, avec un seul objectif, un objectif clair et précis, la lutte contre le terrorisme dans cette zone, qui est quand même une zone immense, ça fait 3000 km de long, ça fait 2 à 3 millions de kilomètres carrés.
Donc Barkhane, en gros, c'est véritablement la présence de l'armée et des forces françaises sur le continent, avec comme principale mission la lutte armée contre les...
C'est ça, en ligne de mire, le démantèlement des réseaux. Alors, on le voit bien, pour ce genre d'opération, bien il faut effectuer un maillage. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre d'être sur une base et d'attendre que les choses se passent, d'être systématiquement en réaction. Mmh. Il faut effectuer un maillage, donc... Au-delà de ces grosses bases, qui seront un petit peu des bases logistiques, où les soldats pourront s'équiper, s'armer, se reposer, il y aura des points avancés, des bases non permanentes, on peut dire, où il y aura toujours des bases temporaires, où il y aura toujours un petit groupe de soldats, 50, 60, 70, qui seront prêts à être déclenchés pour mener une opération. Donc pour renforcer ces points, ça sera le cas à Tessalit, ce sera le cas dans le nord du Niger et ce sera le cas à Faya Larjo, ou d'opérer eux-mêmes s'il y a une cible d'opportunité qui passe à proximité, par exemple une opération terroriste qui se déroule quelque part, ils pourront essayer de les prendre par surprise, ou alors être là déjà pour attendre des renforts prépositionnés pour pouvoir accueillir d'autres troupes et monter en puissance et mener une opération un peu plus large. Voilà, ça c'est le dispositif. Ouais. Les Américains appellent ça la théorie des pas de nénuphar, ils ont inventé ça. C'est-à-dire ça permet finalement, mais c'est assez imagé, mais ça permet de comprendre, ça permet d'aller d'un pays à l'autre avec des points d'appui, passer d'un point d'appui à l'autre et ainsi de suite, avoir un maillage qui grosso modo ira de la frontière mauritanienne au sud de la frontière algérienne, on voit bien se dessiner des choses, hein, et au sud de la Libye. Voilà. On voit bien que la zone de confrontation en fait est remontée. Pendant des années, la zone de terrorisme, on l'avait vu, c'était plutôt vers le Niger, vers le Mali, donc le Burkina Faso était bien placé. Là, le Tchad et le Niger ont l'avantage d'être au centre de la zone et on voit bien que la ligne de confrontation est remontée puisque ces mouvements djihadistes ont été poussés vers la frontière algérienne, vers la frontière libyenne. Voilà.
Alors Barkhane, je parle sous votre contrôle, hein, c'est à peu près 3000 hommes, ça c'est en termes de moyens humains. Matériellement, quels sont les moyens dont disposeront
En réalité, c'est assez stable par rapport à ce qui est engagé aujourd'hui.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est une vingtaine d'hélicoptères, c'est à peu près ce qui est aujourd'hui sur le théâtre africain. 200 véhicules blindés, c'est à peu près ce qui correspond pour trimballer 3000 hommes. Quand on dit 3000 hommes, il faut bien comprendre aussi que c'est 3000 forces. Voilà, 3000 combattants. Ouais. Dans chaque armée, il y a du soutien derrière. Donc peut-être que sur 3000 hommes, il y a 1000 hommes qui seront vraiment capables d'aller faire du combat au coup de sifflet. Bref, au moins on leur dit allez-y maintenant. Après, il y a les forces spéciales dont on parle très très peu, qui elles sont positionnées par petits groupes, qui peuvent tourner, qui sont très mobiles,
des forces spéciales qui sont déjà présentes dans certains pays de la région.
Oui, bien sûr, qui étaient présentes au nord de la RCA, qui sont présentes au nord Mali, qui sont présentes au Burkina Faso, de manière dans la durée au Niger pour la protection des mines d'arlite. Bon voilà. Après, elle tourne parce que le réservoir de forces spéciales, il est quand même pas...
Il
est limité, il n'est pas inépuisable. Donc il y a des forces spéciales. Autrefois, il y avait des forces spéciales qui faisaient de la formation en Mauritanie. Oui. Aujourd'hui, c'est des forces conventionnelles qui les remplacent. Voilà.
Très bien. Merci infiniment pour toutes ces explications, Olivier Four, spécialiste des questions de défense de la rédaction. Merci, bonne journée. Bonne journée également à vous, Issoufi, à Bamako, au Mali. On va rester au Mali d'ailleurs, en repassant par le standard, avec Al Mokhtar, qui est à Bandiagara. Bonjour Al Mokhtar.
Bonjour, je ferai un bonjour aux auditeurs.
Bienvenue. Vous avez des questions sur le nouveau mandat hein, de la mission onusienne au Mali. On vous écoute.
Voilà, j'ai des questions sur le nouveau mandat de l'ONU au Mali. Mmh. Quelle est la différence entre l'ancien et le nouveau mandat de l'ONU au Mali, qui n'augmente pas d'effectifs et qui n'autorise pas les militaires de l'ONU à faire usage de leurs armes, à combattre les rebelles? Pourquoi ne sont pas rapprochés du mandat de l'ONU à RDC en 2013, qui lui autorisait les militaires de l'ONU à faire usage de leurs armes contre les rebelles?
D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Al Mokhtar, pour ces questions. C'est Christine Muraté. Christine Muraté du Service Afrique qui va vous répondre. Elle est en ligne avec nous. Bonjour, Christine.
Bonjour, Zéphirin.
Petit problème de mobilité aujourd'hui dans Paris.
Oui.
En tout cas, merci d'être avec nous en ligne, Christine, pour répondre aux questions de Al Mokhtar. Qu'est-ce qu'on peut répondre à la première question? Juste rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies a effectivement adopté le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Je crois que c'était au mois de juin. Ce futur mandat, selon nos informations, devrait se recentrer sur le volet plutôt politique de la mission onusienne. Quelle est la différence entre donc l'ancien mandat de l'ONU au Mali et celui qui a été adopté en juin?
Eh bien, en fait, la différence, il n'y en a pas. Comme le confiait il y a quelques jours un diplomate onusien, le Conseil de sécurité, finalement, a mis simplement de l'ordre dans les missions du premier mandat de la MINUSMA.
D'accord.
En juillet 2013, la MINUSMA devait s'occuper de tout, finalement, de préparer les élections générales et de faciliter le dialogue entre les belligérants. Et cette fois, la résolution 2164, qui a été votée le 25 juin dernier, se focalise sur le processus de réconciliation et sur le plein déploiement des moyens de la MINUSMA sur l'ensemble du nord du pays. Côté effectif, Olivier pourrait nous le confirmer, mais du côté de l'ONU, on nous dit avoir atteint 9200 casques bleus, c'est-à-dire 73% de l'effectif total. Le Conseil de sécurité a d'ailleurs exhorté les États membres à fournir des ressources supplémentaires pour financer les moyens militaires et humains de la mission dans le pays. Et ce même Conseil de sécurité demande aux casques bleus de se déployer davantage sur le terrain, au-delà des principales villes, en allant par exemple dans les communes d'Aguéloc, dans les communes de Tessalit, au nord de Kidal. Mais un déploiement qui, Zéphirin, ne se fait pas sans problème. Récemment encore, les troupes MINUSMA ont essuyé des attaques djihadistes à Aguéloc, justement, à Tessalit, et il y a quatre soldats de la paix qui ont récemment été tués.
Et d'ailleurs, faute de troupes suffisantes, la MINUSMA va se doter de drones de surveillance et ces avions sans pilote.
Oui, il y en a même un qui est arrivé avec la dotation néerlandaise il y a quelques semaines. Et d'ici la fin de l'année, une surveillance du nord du Mali sera réalisée via des drones de surveillance, comme c'est le cas dans l'est de la RDC. L'ONU veut mettre plus de moyens pour faire plus de renseignements afin d'être plus fort contre des attaques djihadistes qui connaissent un regain ces derniers temps.
Alors justement, pourquoi l'ONU ne s'est pas rapprochée dans le renouvellement de ce mandat de celui d'attribuer à sa mission en RDC, qui consistait à autoriser donc la force de l'ONU à intervenir, à combattre les groupes armés? Pourquoi on l'a pas fait pour le Mali?
Ah oui, c'est vrai que c'était la demande claire de Bamako. Cette demande n'a pas été retenue. Ce sont les États membres du Conseil de sécurité qui prennent la décision. Il y a plusieurs raisons qui sont avancées à New York. Une raison financière déjà, on le voit. Ce n'est pas facile de lever des fonds internationaux pour des priorités qui sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. Le Mali n'est pas le seul conflit dans lequel les forces internationales de maintien de la paix interviennent. Et puis, semble-t-il aussi, il y a une raison politique. Un diplomate onusien, là encore, me disait que l'ONU regrette que les autorités maliennes, depuis le début de 2013, aient tant tardé à ouvrir le dialogue politique avec les groupes belligérants, et que pour l'ONU, la priorité, elle est bien là aujourd'hui, que les groupes armés, que les autorités maliennes aillent au plus vite et dans les meilleures conditions vers la conclusion d'un accord de paix. C'est la priorité de ce mandat, donc la priorité, elle n'est pas militaire. Cette priorité politique, ce n'est pas par hasard que le chef de la MINUSMA, Bert Koenders, est en personne à Alger en ce moment pour ses préalables au dialogue. Le dialogue politique intermalien donc, est la priorité de ce nouveau mandat de la MINUSMA. Et d'ailleurs, le prochain rapport du secrétaire général sur le Mali, qui sortira au mois de septembre, sera consacré exclusivement à ce volet politique qui est en train de commencer à s'écrire à Alger.
Merci infiniment, Christine, pour toutes ces explications. Christine Muraté, du service Afrique de RFI. Al-Mokhtar, merci de votre appel depuis Bandiagara au Mali. On va accueillir maintenant Bakary, qui est à Paris. Bonjour, Bakary.
Oui, bonjour, Zafira. Bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors, vous avez quelques petites questions sur une histoire particulière, sur la mise en accusation d'un ancien haut gradé de la gendarmerie nationale sénégalaise par un de ses frères d'armes. Accusation au centre d'une polémique en ce moment dans le pays. On vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Oui, justement, j'ai trois questions à poser. Mmh. La première question, quels sont les fondements des accusations du colonel Ndao sur cette affaire? Quelle suite? La deuxième question, oui. Quelle suite l'État sénégalais va donner à ses accusations sur l'affaire? La troisième, oui. Quel risque encourt-il?
D'accord. Bon, on va essayer de répondre à toutes ces questions si on a un peu de temps. C'est Binta Diagne, notre correspondante, l'une de nos correspondantes à Dakar qui va s'y coller. Bonjour Binta.
Bonjour Zéphirin, bonjour Bakary et bonjour à tous.
Alors Binta, c'est un livre qui a tout déclenché dans cette histoire, un livre signé par le colonel Abdoulaye Aziz Ndo, un livre dans lequel il accuse le général Abdoulaye Fall, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, de corruption, détournement et banditisme. Le livre n'est pas encore disponible à Dakar si nos infos sont justes, mais il fait parler beaucoup. Quels sont les fondements justement de ces accusations?
Alors, le colonel Abdoulaye Aziz Ndao était l'adjoint du général Abdoulaye Fall. À ce titre, il affirme se baser sur son expérience, sur ses observations aux côtés du commandant de la gendarmerie. Dans une interview qu'il a donnée par téléphone la semaine dernière au quotidien Enquête, qui avait déjà publié les bonnes feuilles de son livre, le colonel Ndao assure détenir les preuves des accusations qu'il avance. Et dans cet entretien, il semble très serein, malgré les menaces qui pèsent sur lui. Non seulement je n'ai pas tout dit, affirme-t-il, mais j'ai encore des preuves de tout ce que j'avance, au gradé et bien conscient donc, de la gravité des informations contenues dans son livre. Mmh. Et il le dit lui-même, si j'ai pris le risque de tout révéler, c'est en connaissance de cause, c'est un risque calculé que j'ai pris, je ne marche jamais aveuglément.
Alors quelle suite l'État sénégalais va-t-il donner à cette affaire, Binta?
Bon, alors pendant une semaine, les commentaires sur ce livre étaient... il y a eu un certain silence radio du côté du gouvernement et c'est seulement lundi que le ministre des Forces armées a annoncé sur la télévision officielle qu'une enquête serait ouverte par l'inspection générale des armées. Cette structure a été saisie pour, donc là je cite le ministre, enquêter sur les allégations du livre et en tirer toutes les conséquences de droit. Mmh. Par ailleurs, poursuit le ministre, les personnes mises en cause dans le livre se réserveront le droit d'ester en justice contre le colonel Ndao. Allusion bien sûr au général Abdoulaye Fall qui est principalement pointé du doigt dans ce livre-là.
Mmh. Quelles sont les sanctions qu'il risque d'avoir?
Alors, tout d'abord, le colonel Abdoulaye Aziz Ndao a été rappelé à Dakar. Il était jusque-là en poste à Rome, comme attaché militaire auprès de l'ambassadeur du Sénégal en Italie. Mmh. Ensuite, le ministre des Forces armées a déjà annoncé la couleur, en fait, lundi soir. Le colonel Ndao a commis de graves fautes disciplinaires. Il a, selon le ministre, violé la réglementation en publiant ce livre sans l'autorisation de sa hiérarchie. Il a surtout violé l'obligation de réserve qui contraint l'ensemble des personnels des forces armées. Et cette obligation de réserve, précise le ministre, est valable jusqu'à l'âge de 65 ans. Or, le colonel Ndao en a 59. Il était encore à quelques mois de la retraite. Enfin, selon le ministre des Forces armées, le code de justice militaire qualifie, et là je le cite encore, ces agissements comme étant une trahison, une révélation de secrets classifiés défense ou pouvant porter atteinte à l'autorité du commandement en formation et au moral des militaires. Donc on le voit bien à travers ses déclarations qu'à son retour au Sénégal, le colonel Abdoulaye Aziz Ndao sera durement sanctionné par l'administration militaire. Mmh. Certains avocats et défenseurs des libertés d'expression y voient surtout déjà une violation de la présomption
d'innocence. Merci infiniment Binta Diagne pour toutes ces explications. Merci à vous Bakary de l'intérêt que vous portez à cette émission. Restez à l'écoute, on se retrouve dans 10 minutes après le journal pour vos réactions et vos commentaires sur la situation en Libye, comme je vous le disais. disais au début de cette émission, c'est un pays au bord de la guerre civile. Alors la Libye est-elle condamnée à sombrer dans le chaos? Comment rompre avec le cycle de violence dans ce pays? Vous nous rejoignez juste après le journal.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.